Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mouni.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de ce soir réfléchit sur la migration irrégulière. Plusieurs personnes migrent, dont certains, de façon irrégulière. Parmi les raisons de départ soulignées par des migrants, le manque d'emploi ou de perspectives dans les pays d'origine. La question qui sera débattue aujourd'hui est donc comment réussir chez soi. Nos invités pour en débattre, Pascal Reintjens. Si vous pouvez bien me corriger avec le nom, Pascal.
C'est parfait, Pascal Reintjens.
Pascal Reintjens, chef de mission OIM Mali. Adam Diko, directrice exécutive de AGCAD Mali. Alors, ce débat entre dans le cadre du partenariat entre Studio Tamani et l'Organisation internationale pour les migrations. Je suis Fatmata Togola.
Le Grand Dialogue.
Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Nous ouvrons les débats avec vous, Adam. Si ça ne vous dérange pas, honneur dame. D'accord. Alors, qu'est-ce qui pousse les gens, notamment les jeunes, à partir ?
Merci beaucoup et merci à Studio Tamani pour l'invitation. Je pense qu'il y a plusieurs raisons qui poussent les gens, surtout les jeunes, à partir. Souvent, les raisons peuvent être culturelles. Nous avons au Mali ici certaines régions, certaines zones où partir à la recherche d'un avenir meilleur est quasiment devenu une culture.
Quand vous dites région, quelle zone?
Je fais allusion à la région des Kayes. Notamment chez nos amis les Soninkés, où partir quand même est devenu culturel. Il faut aller à l'étranger pour aller chercher un avenir meilleur. Et souvent, même si on a ce qu'il faut ici, mais quand même tous les garçons dans certaines familles aspirent à aller à l'étranger. Donc, de ce point de vue, c'est vu un peu comme un aspect culturel d'immigrer. L'autre chose, c'est que ça peut être aussi lié à des manques d'opportunités économiques, d'opportunités aussi d'avoir accès aux services sociaux de base et tout. Donc, ces gens pensent que quand on quitte notre pays ou quand on quitte leur région, ils peuvent aspirer à avoir accès à ces opportunités économiques. Ça peut être aussi lié à des injustices sociales auxquelles certaines personnes ou certaines couches sont confrontées. Donc, elles peuvent se dire qu'elles ne se sentent pas inclus dans le développement de leur communauté ou dans le développement de leur pays, donc aspire à aller ailleurs. Ça peut être lié aussi à des sentiments, disons, à des situations d'insécurité. Aujourd'hui, quand on voit un peu la situation du Mali, donc cette situation encourage aussi beaucoup de jeunes ou beaucoup de personnes, pas que des jeunes, à aller chercher un avenir meilleur ailleurs. Donc les raisons sont multiples, sont diverses et c'est lié à beaucoup de facteurs.
D'accord. Alors nous allons demander à M. Pascal s'il a d'autres facteurs à évoquer par rapport à la migration irrégulière, à ajouter à ce que Adam vient de dire.
Non, je vais simplement enchaîner sur ce qu'a dit Adam Diko. Donc effectivement, les raisons, elles sont multiples. En fait, là où ça se rejoint, c'est qu'en général, on cherche un avenir meilleur pour soi, pour sa famille. Et ce que j'aime rajouter, c'est souvent ici ou là-bas. Et malheureusement, dans la question de la migration irrégulière, c'est que c'est le plus souvent là-bas et dans des conditions qui ne sont pas optimales. Alors moi, je voudrais quand même citer un chiffre. Je pense qu'il est important. Et donc, Adam Diko en fait partie. Donc quand on parle de migration irrégulière, on parle quand même beaucoup de jeunesse. Mm-hmm. La jeunesse, les moins de 24 ans au Mali, c'est 67% de la population. Et je voudrais quand même rajouter encore deux autres chiffres. Les 15-24 ans, c'est 19% de la population. Les 15-24 ans, c'est la plus grande partie des gens avec lesquels mon organisation et d'autres sont en contact sur les routes migratoires qui passent par le Mali, mais aussi de manière plus générale en Afrique centrale et de l'Ouest, et sur les routes de l'Afrique du Nord. Mais les moins de 14 ans, c'est 48% de la population. Ceux-là, ils ne sont pas encore sur la route. Donc ça veut dire que c'est ici et maintenant que se joue l'avenir. Et j'ai pas envie de dire l'avenir du pays. J'ai envie de dire l'avenir de chacun et chacune de ces personnes, de ces enfants pour l'instant, qui ont moins de 14 ans. Et je reste convaincu aussi que la migration, elle doit pouvoir être un choix éclairé et non pas un choix par défaut. C'est complexe.
Ouais. D'accord. Alors, Adam,
Vous avez parlé de facteurs, mais est-ce que ces facteurs sont vraiment une réalité au Mali ? Culturel, économique, est-ce que c'est réel au Mali ?
Alors, malheureusement, oui. Malheureusement, tous ces facteurs, que ce soit des facteurs liés à l'instabilité politique, à la mauvaise gouvernance, les facteurs culturels, comme j'ai tantôt parlé de la région des Cailles, des facteurs d'injustice sociale et tout. Alors, tous ces facteurs aujourd'hui sont une réalité et se font vivre tous les jours. Mais après, est-ce que c'est une raison valable de quitter, d'aller Alors, moi, je suis pour, comme on l'a dit, c'est-à-dire l'immigration, c'est un choix. C'est-à-dire quelqu'un qui choisit d'aller à la recherche d'un avenir meilleur, mais dans des conditions vraiment meilleures, dans des conditions acceptables, mais pas dans des conditions où, au péril de sa vie, c'est-à-dire mettre tout en jeu pour dire coûte que coûte, il faut que j'aille là-bas. Comme je l'ai dit très souvent, alors, la chance qu'on a, quel qu'on soit ici ou ailleurs, cette chance-là est innée en nous, c'est-à-dire c'est en nous. Partout où tu es, tu peux être utile à quelque chose, tu peux être utile pour toi-même. Donc, décider d'aller là-bas parce que tu ne te sens plus chez toi, tu ne te sens plus en sécurité et tout. C'est vrai, c'est une réalité dans certaines conditions, mais si on se donne la main, on peut y parvenir. L'autre chose, c'est souvent de se poser la question, et si tout le monde décide comme moi d'aller, qui va rester pour construire le pays? Souvent, c'est aussi cette interrogation que nous, en tant que jeunes, on doit se poser, parce qu'on nous dit très souvent, vous êtes l'avenir du pays, vous êtes l'avenir du pays. Et c'est ce qui encourage souvent les jeunes à prendre certaines décisions, parce que je me dis, puisque je ne suis pas encore prêt pour le pays, je peux aller ailleurs, aller me former, aller me préparer pour revenir. Mais on oublie que l'avenir, c'est aujourd'hui. L'avenir, c'est à partir d'aujourd'hui. C'est-à-dire, la jeunesse n'est pas que l'avenir, mais c'est d'abord le présent. Mais tant qu'on continuera de tenir ces discours envers les jeunes, on va toujours se dire que on a encore le temps d'aller voir ailleurs, d'aller se former, d'aller chercher un avenir meilleur, d'aller chercher de l'argent et autres pour revenir après et participer à la construction du pays. Mais sauf que ça n'attend pas. C'est-à-dire la construction d'une nation, d'un pays, ça n'attend pas. Ça se fait de tous les jours.
D'accord. Alors, Monsieur Pascal, en tant que chef de mission de l'OIM, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce rêve des jeunes qui voient le bonheur, une vie meilleure ailleurs ?
Oui. Bien sûr, je pense qu'on est, au début du 21e siècle, on est dans un monde qui est devenu un monde tout à fait global, avec deux éléments principaux. Le premier, c'est les distances se sont raccourcies à travers le monde par rapport à l'époque de laquelle moi je viens, le 20e siècle. Donc on fait le tour du monde très rapidement maintenant, de manière un peu plus compliquée pour certains. Et puis surtout, l'accès à l'information, il est en temps réel et il est tout à fait global également. Donc c'est normal finalement qu'on rêve. On rêve parce qu'on regarde son téléphone et qu'on voit ce qui se passe ailleurs et on se dit pourquoi pas moi. Alors là où je rejoins Madame Dicot, c'est pourquoi pas moi, mais qu'est-ce que je vais faire pour que ce rêve me soit accessible? Et je crois que bien sûr il y a la volonté individuelle. Bien sûr, il doit y avoir cette envie de pouvoir contribuer au développement socio-économique de son pays. Je ne pense pas que tout le monde soit à même d'être un leader ou soit à même d'être un politicien. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Par contre, ce qui est une clé à ce moment-ci dans ce pays et dans cette région, c'est d'être à l'écoute de la jeunesse. Moi, je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. D'abord parce que vous êtes d'ici. Ensuite, parce que vous représentez une partie de la jeunesse. Je dis bien une partie, ce n'est pas la seule. La jeunesse, c'est vaste, ouais. c'est divers. Et je crois que très souvent, dans les modèles traditionnels, entre guillemets, on laisse pas assez la voie à la consultation auprès de la jeunesse. Moi, je suis très heureux de voir une dynamique actuellement au Mali. Je rencontre des associations de jeunes, des associations, des jeunes eux-mêmes, avec cette volonté qui est quelque part incarnée en face de moi ici, de vouloir quelque part s'inscrire dans l'avenir ici au pays.
Mais est-ce que direz-vous qu'ils sont conscients des risques de ce que cette migration irrégulière peut avoir ?
Je donne souvent un exemple, je vais le redonner. J'étais à la gare routière de Mopti en visite de terrain. J'ai rencontré des jeunes qui s'apprêtaient à monter dans un bus qui allait remonter vers le nord et vers l'Algérie. Donc je leur ai mentionné malgré tout qu'avant d'arriver sur les côtes nord de l'Algérie, il y avait quand même un bon 4000 km de désert dans des conditions très très rudes. Ce à quoi le jeune qui avait 21 ans m'a répondu « Oui, je suis au courant, mais j'ai mon frère qui m'attend là-bas et de toute façon, les conditions dans lesquelles je suis ici font que je préfère tenter ma chance. » Ce que je veux dire par là, c'est je crois qu'il faut continuer à passer le message sur les dangers de la migration irrégulière, mais on doit absolument travailler sur les alternatives à la migration irrégulière. Passer le message, simplement dire « c'est dangereux », en plus, la jeunesse, vous savez, la période adolescente, celle qui commence à 14, 15 ans, jusque 20 et un peu, c'est l'âge où on prend des risques. C'est l'âge où on se dit qu'on est indestructible, dans une certaine mesure. Et c'est aussi l'âge où, éventuellement, on se dit « c'est pas grave si ça marche pas comme ça, je tenterai autre chose après ». Si ce n'est qu'ici, c'est grave et qu'il y a beaucoup de gens qui meurent dans le désert. Et on n'a même pas les chiffres de ces gens-là. Je dis souvent, une organisation comme la mienne, on récupère les chiffres des personnes qui meurent dans la Méditerranée. Le comptage est plus simple que les gens dont les corps sont recouverts par le sable.
D'accord. Alors, Adam, bien qu'il y ait des risques, les jeunes persistent toujours à aller vers, comme il a si bien dit, les régions vers le nord, le désert, en passant par l'Algérie, la Méditerranée. Mais pourquoi ils persistent, bien qu'il y ait des dangers, et ils sont conscients de ces dangers-là?
Vous savez, celui qui pense que sa vie n'a aucune valeur, rien ne peut le dissuader. Ces personnes, comme il a si bien dit, vous discuterez avec ces personnes, ils te diront que mieux vaut prendre ce risque-là que de rester là. Parce qu'ils sont animés par un sentiment de désespoir total. Ils se disent qu'ils n'ont pas d'avenir ici, mais pourquoi ne pas tenter?
Ils sont prêts à venir ici, mais aller mourir dans le désert.
Ils sont prêts à prendre ce risque-là parce qu'ils se disent que peut-être ça peut marcher. Peut-être ils peuvent passer, peut-être ils peuvent mourir. Mais ce qu'ils disent très souvent, c'est qu'en restant ici, je sais que je n'ai aucune possibilité. Donc pourquoi ne pas tenter ma chance? Donc ces gens-là sont animés par ce sentiment de désespoir qui est de rester chez eux et de pouvoir contribuer au développement de leur communauté ou de leur pays. Donc rien ne peut les dissuader. C'est pas les risques, c'est pas les textes, ce n'est rien qui peut les dissuader. Encore une fois, on s'attaque très souvent aux conséquences des problèmes. C'est-à-dire, oui, celui qui veut partir, lui montre les images, si tu pars, tu peux mourir et tout. Celui-là, il s'en fiche complètement parce que là où il est, il s'est dit, de toutes les manières, que je pars, que je meurs, dans le désert ou bien dans la mer, que je reste ici, c'est que si je reste ici, je suis sûr que je vais me prendre une balle dans la tête ou je vais rejoindre les groupes armés et ainsi de suite. Et de toutes les manières, il n'y a aucune protection pour moi. Mais on doit s'attaquer à la cause de l'immigration irrégulière. Qu'est-ce qui fait que les jeunes sont autant poussés à prendre le risque pour aller chercher un avenir meilleur? Et souvent, et même, ils n'ont aucune assurance qu'ils vont avoir un avenir meilleur là-bas. Et c'est ce qu'on doit aussi essayer de démontrer souvent. Parce qu'on a tendance à ne voir que l'aspect positif de ceux qui partent. C'est-à-dire ceux qui arrivent à traverser le désert, qui arrivent à traverser la Méditerranée, qui s'installent en Italie quelque temps après, qui rejoignent d'autres pays tels que la France, les Pays-Bas et autres. Ce qu'on voit, c'est que ces gens-là, ils vont dire, vous n'avez pas voulu venir, moi j'ai pris le risque et aujourd'hui, voilà. Il prend une photo à côté d'une Ferrari, il prend une photo à côté d'un restaurant et tout. Et le jeune qui est resté va se dire, mais moi j'ai gâté ma chance. Si j'avais pris le risque comme lui, voici ce que j'allais être aujourd'hui. Mais en réalité, celui-là, il sort pour prendre une photo devant une Ferrari. Mais c'est quoi la vie de cette personne tous les jours dans ces pays-là? C'est quoi les difficultés que cette personne-là rencontre tous les jours? Mais ils ne vivent pas. Moi, je le dis très souvent. Je dis, les gens qui traversent la Méditerranée, qui vivent en France ou dans d'autres pays, qui sont des sans-papiers et tout, je les ai dit, vous vivotez, au fait. Vous ne vivez pas. Nous qui sommes au pays, nous avons beaucoup plus de chance, beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de plaisir à vivre que vous. Parce que tout ce que vous faites, c'est-à-dire vous vous forcez à montrer une image qui n'est pas forcément la réalité. Et celui qui est là, qui est resté, va penser que c'est cette image-là qui est la vérité. Et je vais pousser un peu la réflexion pour l'amener sur un plan un peu féministe et tout. Très souvent, on dit, quelqu'un qui arrive à partir à l'extérieur et qui marie une femme ici, qui fait venir sa femme, une fois que sa femme arrive à l'extérieur, en France ou dans d'autres pays, sa femme le quitte. Très souvent, on dit ça, ouais, une femme, tu l'as fait, elle quitte. Kay, je l'ai mariée, elle a quitté Kay, elle est venue dès qu'elle est arrivée ici, elle a commencé à prendre le temps, elle lève le temps sur moi, elle m'a quitté et tout. Voilà. Mais sauf que ce qu'on ne dit pas, celui qui est à l'extérieur, je prends juste un exemple, oui. Le Madou qui est à l'extérieur, l'image que Madou envoie à Fanta qui est restée au pays, c'est l'image de quoi? C'est l'image des Madou qui part aux Champs-Élysées, c'est l'image des Madou qui part visiter la Tour Eiffel, c'est l'image des Madou et tout. Fanta qui voit ces images, elle en rêve. Et une fois que Fanta arrive en France, elle voit quoi? Un Madou qui ne dort pas, un Madou qui travaille 18 heures par jour, un Madou qui dort avec ses frères et tout. Mais elle s'est dit, mais au pays, je vivais mieux que ça. Au pays, j'avais mieux que ça. Au pays, au moins, je vivais. Mais ici, je ne vis pas. Donc, du coup, elle prend le temps. Elle est désespérée, elle veut rentrer ou elle veut quitter Madou parce que l'image que Madou lui envoyait, ce n'est pas ça. Et c'est exactement la même chose. Ce qui arrive là-bas donne une image positive, mais alors que ce n'est pas la réalité. Et ça encourage d'autres qui sont là. Et d'autres mesures de représailles qu'on prenne encouragent aussi certains. Parce qu'ils se disent, si on voit que tout ça, toutes ces mesures draconiennes sont prises pour ne pas qu'on aille, ça veut dire que là-bas, c'est l'Eldorado. C'est-à-dire qu'on essaie vraiment de nous cloîtrer dans notre prison ou dans notre pays où on n'a accès à rien. Mais là-bas, tout est possible. Voilà pourquoi il y a toutes ces mesures draconiennes pour ne pas qu'on y ait. Donc souvent, ces mesures-là aussi peuvent être, ces mesures draconiennes peuvent être aussi des facteurs de motivation. Oui, de motivation de certains pour aller chercher ailleurs. Comme il l'a dit, l'adolescence, c'est vraiment une période où quand on te dit que quelque chose est interdit, tu es tenté d'aller voir
ce
que
c'est. Voilà,
c'est ce que ça donne.
D'aller au-delà. Alors, Monsieur Pascal, il y a Adam qui nous a parlé un peu de l'impact que tout cela peut avoir, le rêve de là-bas, les photos, les images. Mais vous êtes l'OIM, par exemple, est-ce que vous avez eu à faire des études démographiques pour savoir l'impact sociétal que cela peut avoir, par exemple, au Mali, ici?
On n'a pas fait d'études en tant que telles, mais donc, en fait, il semble évident que tous ces jeunes qui disparaissent sur les routes, à un moment, ils sont quelque part entre deux eaux, donc ils sont perdus, et pour leur ce que moi j'appelle leur communauté d'origine, et éventuellement pour les sociétés d'accueil. Adam l'a bien mentionné, les gens qui s'engagent sur la migration irrégulière s'engagent dès le départ dans une migration qui sera très très compliquée quand on la compare à la migration régulière. Et je pense qu'il faut, au demeurant, travailler plus sur des canaux de migration régulière, mais ça c'est un autre débat probablement. Mais ceux qui partent sur à ce moment-là se retrouvent quelque part entre deux eaux. Donc ils contribuent pas ou plus au développement socio-économique de leur communauté. Ils ne contribuent pas au soutien de leur famille, malgré l'espoir qui est mis. Donc on a parlé de l'approche culturelle, de dire il faut que tu partes, mon grand, parce que c'est le moment d'aller
toute
ailleurs.
La famille est allée.
Éventuellement, tu vas pouvoir soutenir la famille. Moi, j'en ai connu beaucoup en Europe qui ont la honte de dire quelle est leur situation exacte, qui ont la honte de dire j'envoie de l'argent au pays, mais moi j'ai absolument plus rien pour vivre parce que je dois continuer à montrer que j'envoie l'argent au pays, qui ont la honte de dire qu'ils n'ont pas obtenu de statut. Loin de moi ici l'idée de dire que tout le monde doit rester. Mais une fois de plus, le message, c'est de dire si vous désirez partir, faites-le dans des conditions qui sont des conditions régulières. Et si ça ne marche pas, réorientez votre projet de vie. Voyez ce que vous pouvez faire ici. Et idéalement, et je suis absolument d'accord avec vous, idéalement, ça fonctionne dans l'autre sens. On regarde d'abord tout ce qu'on peut faire ici, quelles sont les opportunités, comment est-ce qu'on peut contribuer. Je crois aussi qu'il ne faut pas toujours attendre que ça va venir de quelqu'un d'autre. J'ai déjà écouté Adam quand elle parlait de ça, mais je suis absolument convaincu de ça aussi. Trop souvent, dans le cadre du travail que je fais, où on fait de l'assistance directe aux migrants et autres, il y a des personnes qui sont effectivement dans des situations très très délicates et qui ont besoin d'une assistance directe quand on arrive à les sortir du désert, à les ramener dans un centre d'accueil, quand on arrive à avoir une écoute psychosociale pour eux, à les reconstruire, à faire en sorte qu'ils aient accès aux soins de santé. Ça, évidemment, c'est nécessaire. Mais arrive le moment où finalement sa vie, où notre vie, elle nous appartient. Et je crois qu'il faut arrêter toujours de se cacher passer derrière d'autres choses pour dire « Ah oui, non, non, mais c'est tout le contexte qui fait que de toute façon, ça va pas le faire. » Le contexte, on a tout un chacun la capacité de pouvoir influencer ce contexte. Après, parfois, c'est pas grand-chose. Parfois, c'est juste un état d'esprit. Mais cet état d'esprit va faire la différence entre quelqu'un qui ne va pas tenter, finalement, ce qu'on dit souvent. Si on ne tente pas, on sait qu'on va déjà pas réussir. Ouais. Par contre, si on tente, si on a un échec, on va apprendre de cet échec. Et quelquefois, sur la migration irrégulière, pour certaines personnes, il y en a pas mal qui apprennent de leur échec et quand ils reviennent et qu'ils se réinstallent dans leur communauté, bien eux, ils peuvent être quelque part des porte-drapeaux aussi.
De statistiques, vous avez des chiffres à nous donner par rapport à ça ?
Du nombre de personnes qui sont retournées sur ces deux dernières années, à partir entre autres de l'Afrique du Nord, de la Libye et de l'Algérie principalement, nous avons assisté directement à plus de 17 000 jeunes Maliens, dont une grande partie se retrouvait dans des conditions terribles dans les camps de détention en Libye, d'autres qui se retrouvaient dans des situations au milieu du désert, que ce soit aux portes du Mali, au Niger. Ou dans les pays environnants. Donc ça fait quand même beaucoup de monde.
Et parmi ces 17 000, ces 17 000 jeunes qui sont retournés et dont vous avez apporté votre assistance, est-ce qu'il y en a qui ont pris conscience des dangers liés à la migration irrégulière qui ne sont pas repartis, ou bien si vous avez des chiffres à nous donner par rapport à des jeunes, malgré qu'ils soient retournés dans des conditions difficiles, qui ont décidé de repartir?
Et on a fait une étude il n'y a pas longtemps, surtout pour connaître leurs intentions. Et donc sur toutes les personnes qu'on a assistées dans le cadre de leur retour et de leur réintégration, on peut dire de manière assez sérieuse sur cette étude qu'on a faite qu'il y a 89% des gens, en tout cas, qui n'émettent pas une grande intention de repartir. Il reste malgré tout 11% des gens qui annoncent qu'ils sont prêts à retenter leur chance. Maintenant, une fois de plus, retenter sa chance à l'étranger, si c'est le faire via des canaux réguliers et légaux, c'est pas négatif et ça peut même être tout à fait positif pour tout le monde. Par contre, repartir de nouveau sur la route, ça c'est probablement le pire qui puisse leur arriver.
D'accord. Alors Adam, peut-on travailler et réussir chez soi, selon toi?
Bien sûr.
Comment?
Bien sûr, on peut travailler et réussir chez soi. Il faut juste avoir la volonté. Comme je le dis très souvent.
Mais vous dites volonté, il faut juste avoir la volonté. Ces jeunes qui partent, eux aussi, ils ont la volonté de partir. Donc, quel genre de volonté?
Oui, voilà pourquoi je vous dis, c'est possible de rester chez soi et de réussir parce qu'ils sont beaucoup plus animés par cette volonté d'aller chercher ailleurs que de rester chez soi pour tenter quelque chose. Vous allez voir les jeunes qui essayent d'aller, ils mobilisent tellement de fonds souvent, ça part jusqu'à 3 millions, 4 millions de francs CFA pour aller mettre sa vie en danger. Mais avec 4 millions de francs CFA, on peut tenter quelque chose chez soi. Moi, je l'ai dit très souvent, j'ai fait toutes mes études ici au Mali. J'avais la possibilité, à un moment, d'aller continuer mes études ailleurs. Mais j'ai décidé de rester là. C'est vrai que ça a été un choix difficile parce que nous sommes dans une société où tout le monde aspire à ce que après le bac, que l'enfant aille continuer ses études ailleurs et tout. Donc c'était assez choquant que je décide non, je ne veux plus aller, je vais rester là, je vais continuer mes études ici. Parce que depuis toute petite, j'ai été passionnée par ça, c'est-à-dire discuter avec mes pères, porter la voix de mes pères, m'engager sur des combats, ça a été une passion pour moi depuis toute petite. Et je me disais que je ne peux pas aller faire ça ailleurs. C'est-à-dire, je ne veux pas aller faire ça ailleurs. Je vais rester ici et changer les choses ici. La crise de 2012 a tellement secoué le Mali que moi, je me suis dit, c'est à la jeunesse malienne de corriger cette crise-là. C'est à la jeunesse malienne. Après le coup d'État, je me suis dit, c'est vrai, le coup d'État, on vient d'avoir un coup dur pour notre démocratie. Mais quelque part, nous, en tant que jeunes, on ne s'est pas approprié assez de cette démocratie. La plupart d'entre nous ont bénéficié de la démocratie, mais n'ont pas participé à l'avènement de la démocratie. Donc, c'est l'occasion pour nous de nous réapproprier de notre démocratie et de la défendre. Donc, ça, je ne peux pas aller faire ça ailleurs. Je ne veux pas aller faire ça ailleurs. Je veux le faire ici avec d'autres jeunes qui sont engagés.
D'où la création de l'AJICAD.
Voilà, d'où la création de l'AJICAD. Avec d'autres jeunes qui sont aussi engagés, qui sont aussi motivés et surtout qui croient au changement. Vous savez, vrai, quand on n'a pas cet espoir de dire que les choses peuvent changer, les choses doivent changer, et dire que moi, en tant qu'individu, j'ai ma partition à jouer. C'est-à-dire, je dois faire quelque chose. On n'est pas tous obligés d'être des leaders et tout. Dans notre famille, dans notre communauté, dans notre quartier, dans ton pays, tu peux faire quelque chose. Donc, tu dois juste être animé par cette volonté de le faire. Il y a beaucoup qui sont restés ici, qui ont reçu, qui sont vus comme des modèles. Il y a beaucoup qui sont partis, mais qui n'ont pas reçu. C'est-à-dire qui, aujourd'hui, voient ceux qui sont restés, qui ont reçu comme des modèles. Et il y a aussi certains qui sont partis, mais qui sont revenus parce qu'ils se sont dit, c'est ici que je veux faire ma vie, c'est ici que je veux changer les choses.
Et donc, quelles sont les possibilités qui s'offrent à eux, par exemple?
Les possibilités qui s'offrent
aux jeunes qui ont la volonté de rester ici, quoi.
Alors, toutes les possibilités s'offrent à nous. Déjà, c'est notre pays. Si. Ça, c'est déjà la plus grande possibilité qui s'offre à nous. L'autre possibilité, c'est que c'est vrai que les réponses politiques, souvent, ne sont pas assez cohérentes avec les besoins des jeunes et que les jeunes se sentent souvent exclus ou que les réponses ne sont pas du tout adaptées à nous, mais c'est à nous de changer la donne. Comme je l'ai dit très souvent, il faut juste qu'on se pose la question, et si tout le monde décide de partir par l'immigration irrégulière,
Qui va rester?
Ces personnes qui partent, qui ne reviennent plus, mais c'est une main d'œuvre qu'on est en train de perdre. C'est la ressource humaine qu'on est en train de perdre aujourd'hui doit être la principale interrogation de la jeunesse. Est-ce que nous, en tant que jeunes, on doit périr notre vie pour aller chercher un avenir meilleur ailleurs? Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité de rester là et de changer les choses? Est-ce que ces politiques qui sont mises en place ou ces politiciens qui sont là, qui parlent en notre nom, est-ce qu'on doit continuer à raser notre tête en notre absence? Est-ce qu'il n'est pas, l'heure n'est pas venue pour nous, en tant que jeunes, de nous prendre en charge? Ce qu'on part chercher ailleurs, est-ce qu'on ne peut pas l'avoir chez nous? Qu'est-ce qui manque? Voici des interrogations qu'on peut se poser, voici des combats sur lesquels on peut s'engager. Et non pas juste aller chercher quelque chose juste pour toi, juste pour ta famille. Encore une fois, il y a certains qui partent, ils ne sont pas forcément dans le besoin. Comme je l'ai dit, un jeune qui arrive à mobiliser 3 à 5 millions, ce jeune-là n'est pas forcément dans le besoin quand on regarde un peu le Mali.
D'accord. Alors, Monsieur Pascal, quel est concrètement le rôle de l'OIM dans tout ça? Qu'est-ce qu'ils apportent pour vraiment aider à ce que ces possibilités-là soient vraiment une réalité?
Oui. Le rôle direct, évidemment, de l'OIM, c'est un peu compliqué à expliquer. Donc, je crois que les questions de la migration, ce sont des questions complexes. Et donc une organisation comme la mienne, elle s'attaque sur les questions de la migration à trois grands axes. Le premier, c'est la question de la gouvernance. Donc la gouvernance au niveau de chacun des États dans lesquels on fonctionne, et en ce compris au Mali, où nous sommes très proches des autorités en vue de pouvoir les accompagner sur le développement de différents plans liés à la migration et entre autres sur la politique nationale de migration, avec en ce qui nous concerne la volonté de pouvoir engager le plus possible la jeunesse dans ces discours-là. Le deuxième plan, c'est la question de la mobilité. Donc j'en ai parlé un tout petit peu, mais je crois que tant qu'on n'a pas d'alternative positive à la migration irrégulière, il y en a deux. Donc dans ces alternatives positives, c'est de pouvoir développer quelque chose au pays, et c'est pouvoir éventuellement de s'engager dans la migration régulière. La migration régulière dans un espace ouvert comme la CEDEAO, c'est déjà une certaine réalité, si ce n'est que cette mobilité, elle demande quelque part à être cadrée plus avant encore, justement pour pouvoir permettre des échanges qui soient socio-économiques au niveau des différents habitants de cet espace-là. Et là, il y a tout un travail complémentaire à faire. Et le troisième, qui est probablement lié plus à la migration irrégulière, ce sont les questions de résilience, en fait. Donc le fait de pouvoir se dire que, bien, effectivement, la migration n'est pas toujours un choix. Dans un pays comme celui-ci, on a quand même beaucoup d'éléments qui viennent s'ajouter à des difficultés structurelles comme les crises au niveau de certaines régions, mais également les changements climatiques qui vont jouer leur rôle aussi. On sait qu'on a des déplacements à ce moment-là, et je pense qu'il faut pouvoir dans un premier temps prendre ces trois éléments en compte, et de là, pour répondre plus clairement à votre question, qu'est-ce qu'on fait? Ben, sur le terrain, on essaye de faciliter le mieux possible les débats, en donnant la parole, puisqu'on parle ici de jeunesse et de migration irrégulière sur ces questions-là. Je crois qu'il n'y a pas mieux que la parole. On essaye aussi de faire en sorte que ces débats puissent avoir un écho au niveau des décideurs. Là aussi, je pense que c'est important. Si on veut faire avancer les choses, il faut pouvoir le faire dans un cadre qui permette justement de consolider ces avancées. Et donc, ça ne peut passer que par le dialogue, selon moi. Et puis l'autre point, c'est de pouvoir travailler à des conditions qui soient meilleures sur le terrain. Donc, je vais vous donner un exemple. On fournit des formations auprès des jeunes qui sont de retour, entre autres, des formations en artisanat, en commerce, en restauration, en activité agropastorale. Alors certaines de ces formations ne sont pas très attractives pour certains parce que le discours est assez négatif. Sur entre autres le fait de travailler en zone agricole et en zone rurale, alors que en termes de développement et de développement économique du pays, il y a probablement un potentiel énorme à ce niveau-là, et il y a un potentiel énorme dans des zones qui sont tout à fait accessibles pour le faire, et c'est dommage c'est dommage d'avoir une partie de la jeunesse qui va se retrouver, comme l'a dit Adam Dico là tout de suite, éventuellement à devoir vivoter quelque part, alors qu'en travaillant ici sur des métiers...
On peut avoir meilleur chez soi.
Oui, mais il faut aussi pouvoir revaloriser certains métiers. Oui. Les revaloriser, pas se dire que tout le monde va terminer banquier à New York. Enfin, je ne sais pas, je schématise, mais oui. Je crois qu'il faut se dire être un bon entrepreneur agricole dans sa région, avec sa communauté, et avoir des liens éventuellement avec les pays voisins ou les autres régions, ben c'est formidable aussi, il n'y a pas besoin d'aller loin pour faire ça.
D'accord. Alors Adam, est-ce qu'on peut dire que chacun joue pleinement son rôle? Par exemple, le gouvernement, la société civile, la jeunesse, pour rendre les choses réellement faciles.
Alors c'est vraiment difficile de dire que chacun joue pleinement son rôle, mais je pense qu'il faut que chacun joue pleinement son rôle.
Par exemple, vous représentez une partie de la jeunesse. Diriez-vous que la jeunesse joue pleinement son rôle?
Alors, que la jeunesse joue pleinement son rôle, je pense que nous, ce qu'on fait, c'est la sensibilisation. Nous, en tant que société civile, ce qu'on peut faire, c'est vraiment la sensibilisation à travers des campagnes d'information, des sensibilisations pour vraiment montrer aux gens les dangers liés à l'immigration irrégulière et tout. Alors ça, c'est nous, notre poids, ça, c'est nous, notre rôle. Mais après, comme je l'ai dit, il faut aussi qu'il y ait des réponses politiques cohérentes avec ça. Vous savez, vous allez dans certaines localités aujourd'hui, je prends l'exemple du centre, il y a certaines localités, quand vous partez là-bas, ces jeunes, ils n'ont aucune connexion avec l'État central, aucune connexion, il n'y a rien. Les gens, ils ne partent plus à l'école, il n'y a aucun service de santé, il n'y a rien. Et vous partez, vous dites à ces gens-là, restez chez vous, c'est ça qui est la solution. Ils vont te dire, mais tu vois quoi chez nous? En fait, souvent, c'est ça aussi un peu la difficulté. Et moi, je peux dire que oui, je suis restée là, j'ai pu me développer, j'ai pu mettre quelque chose en place qui profite à d'autres jeunes aussi, auxquels nous sommes fiers, auxquels nous croyons et tout. Mais après, certains jeunes peuvent dire que moi, je fais partie des privilégiés parce que j'ai été à l'école, parce que j'ai étudié et tout. Même si j'ai dit que oui, j'ai été dans les écoles publiques et tout, mais il y a certains qui n'ont même pas accès à ces écoles publiques-là. Donc souvent, c'est difficile de pouvoir dissuader ces personnes-là. Voilà pourquoi j'ai dit le rôle du gouvernement, le rôle des politiques est crucial, est primordial pour pallier à ce problème d'immigration irrégulière. L'autre chose par rapport aussi aux organisations internationales telles que l'OIM, telles que d'autres, souvent c'est aussi de mettre en avant, se mettre en valeur ceux qui sont restés ici et qui ont pu quand même construire quelque chose et d'intensifier aussi cette influence politique sur les gouvernements afin qu'on puisse s'attaquer à la cause des problèmes et non les conséquences. Parce que tant qu'on va continuer aussi à ne montrer que l'aspect négatif, ça peut décourager certains, mais certains aussi, ça ne peut que les encourager parce qu'ils se disent que c'est juste des mesures dissuasives pour nous empêcher de partir. Donc ça veut dire que là-bas est meilleur qu'ici. Les politiques doivent être de telle sorte de montrer à chacun d'entre nous que l'Eldorado n'est pas là-bas. L'Eldorado, c'est en nous et on peut les créer. C'est-à-dire, chacun peut rester chez soi et développer les choses. Mais quand on décide aussi de partir, qu'on doit partir dans des conditions légales, déjà établies et tout, et mettre ça en avant, ne pas dire aux gens, ne partez pas. Oui, les gens peuvent partir. La déclaration universelle des droits de l'homme donne cette possibilité à chacun d'entre nous de pouvoir se déplacer, de pouvoir aller là où il veut, mais seulement montrer aux gens que vous pouvez partir, mais à des conditions, il y a des conditions légales auxquelles vous devrez remplir pour aller et ne pas aller mettre votre vie en péril. Mais que ça ne soit pas vraiment avec souvent des images choquantes et autres. Ces images choquantes, ça peut choquer ceux qui n'aspirent pas à aller et ceux qui se disent que ce n'est pas bon. Mais celui-là qui est décidé, qui veut aller coûte que coûte, ces images-là ne lui font rien parce que lui, il ne regarde pas ces images-là. Il regarde autre chose. Il regarde peut-être un cousin du village qui a pu passer par la Méditerranée, qui est aujourd'hui au Canada ou voilà et tout. C'est cette image que lui il voit. Et cette image que lui il voit comparée à toutes les autres images, il n'y tient pas compte. Ce qu'on doit faire, c'est de dire aux gens, vous avez mille raisons. Aujourd'hui, on peut dire que tous les jeunes Maliens ont mille raisons d'aller chercher un avenir ailleurs. Mais si nous avons mille raisons d'aller ailleurs, il faut qu'on cherche qu'on a 2000 raisons pour rester ici et jouer notre partition pour la construction du pays.
Et lors de vos sensibilisations, les échanges, les dialogues que vous avez avec ces jeunes, la population par exemple, est-ce que vous parlez un peu de cet aspect-là?
Lequel?
Du fait que vous pouvez y aller, bien sûr, mais que ce
bien
soit
sûr. Écoutez,
légalement
moi
également.
Oui, non, mais oui. Je pense que c'est une très bonne question. Moi, je représente l'Organisation internationale
bien
pour
sûr.
Les migrations. J'aime bien rajouter le pour, parce que
pour,
c'est vraiment
oui.
très, très important. Pour les migrations sûres, ordonnées, dignes et régulières.
Oui.
Et je pense que ça, c'est une des clés, en fait. Et c'est une des clés, c'est un des défis actuels dans le monde. Donc, dans le monde global, comme il est défini actuellement, c'est comment faire pour que les États s'entendent quelque part pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de possibilités de migration sûre, régulière, ordonnée et digne, qui seront une alternative concrète à la migration irrégulière. C'est vraiment mon message que je donne à tout le monde et c'est ce que nos équipes font aussi. Alors c'est vrai que dans certaines campagnes d'information que j'ai déjà vues, on met en avant les morts dans la Méditerranée, les morts dans le désert, mais ça doit être contrebalancé par autre chose, parce que c'est vrai qu'on meurt dans la Méditerranée, c'est vrai qu'on meurt dans le désert, c'est vrai qu'on est dans des conditions de détention pas possibles en Libye, mais c'est vrai aussi qu'on peut partir à l'étranger pour étudier, pour revenir avec un diplôme, c'est vrai qu'on peut partir à l'étranger dans le cadre d'une mobilité liée au travail, mais tout ça est un tout qui est très, très, très complexe. Et je pense que c'est vraiment important de le rappeler. Il n'y a pas de réponse simple.
Oui.
Moi, c'est ce que je dis très souvent. Sur la question de la migration, les débats actuels, de manière globale, c'est soit c'est tout noir, soit c'est tout blanc. Ce serait trop facile. On ne serait pas ici occupé à en débattre, en fait. Il n'y a pas de réponse simple. Il n'y a que des réponses individuelles à l'infini. Chacun va définir son parcours en fonction de ses attentes, qui peuvent changer dans le temps, en fonction de son statut, qui peut changer dans le temps aussi, et je pense que ça, c'est très, très important, et en fonction de son engagement. Alors, a priori, moi, je fais partie des gens qui sont convaincus qu'on a des racines. Donc, et si on a ses racines, mais on peut continuer à travailler avec ses racines, au plus proche de ses racines, ou même en étant plus loin, mais toujours, quelque part, en gardant en tête cette volonté de pouvoir contribuer à sa communauté, contribuer au bien-être de sa famille, et puis surtout, et ça a été dit plusieurs fois, et je trouve que c'est vraiment bien, aller chercher en soi son propre bonheur. on appelle ça l'Eldorado, on l'appelle comme on veut. Mais je pense que parfois, le fait de partir sur les routes de la migration irrégulière, c'est aussi partir pour fuir soi-même, pour ne pas se retrouver face à ses propres interrogations.
Et en ce qui concerne l'implication des immigrés dans vos campagnes de sensibilisation, oui. Est-ce qu'eux-mêmes, ils viennent parler, partager un peu leur expérience pour dissuader ces jeunes-là?
C'est compliqué, mais c'est effectivement, les meilleurs vecteurs, ce sont les gens qui ont été sur les routes. J'en suis convaincu. Alors, il y en a certains avec lesquels on travaille, qui sont convaincus qu'ils ont vécu quelque chose et qu'il faut qu'ils le fassent connaître, qu'ils le fassent savoir. On l'a fait aussi auprès de mamans et de grands-mères, de jeunes qui sont décédés, qui passent le message, pas spécialement directement à la jeunesse, mais aussi aux autres mamans et aux autres grands-mères. Parce qu'on a parlé de l'image positive qui est donnée quand on est dans la migration irrégulière. Et c'est au sein de toute la communauté, on se dit, mais il faut vraiment que tu y ailles, mon grand ou ma grande, mais il faut partir maintenant. Alors qu'en fait, c'est important de pouvoir démythifier cet Eldorado, tout en se disant, mais voilà, les possibilités d'un choix positif doivent exister.
D'accord. Alors, Adam, quels peuvent être les avantages de travailler chez soi?
Alors, les avantages déjà, c'est que on n'a pas cette pression-là sur soi pour dire que j'ai pas de papier. Je peux pas être employé au McDo ou autre parce que j'ai pas de papier. Je suis obligée d'utiliser les identités de quelqu'un d'autre pour le faire. Je vis tout le temps sous pression, sous stress. On n'a pas ça. On va pas passer sa vie à vivoter alors que certains sont en train de vivre. Et l'avantage, c'est que vous savez, on le dit très souvent, rien ne vaut chez soi. Et moi, je suis vraiment partisane de cette citation, rien ne vaut qu'être chez soi. Parce que quand on est chez soi, non seulement il y a cette solidarité avec les autres, mais il y a cette connectivité avec les autres qu'on a. Et il y a beaucoup de possibilités qui peuvent s'offrir à nous quand on est chez soi. C'est vrai, il y a des difficultés. Alors, il n'est pas dit aussi que ceux qui partent qui n'ont pas de difficultés. Oui, peut-être les défis ne sont pas les mêmes, les contextes ne sont pas les mêmes, mais chacun d'entre nous affronte des difficultés en longueur de journée. Je ne peux pas vous dire que moi, j'ai une vie réussie. Non, mais j'aspire à avoir une vie réussie. Et c'est ce qui donne un goût, c'est ce qui donne un sens à mon existence parce que j'aspire à quelque chose de meilleur. Et c'est ce qui me motive. Mais si j'avais quelque chose de déjà meilleur, je ne vais plus vivre. C'est-à-dire, j'arrête de vivre. Je n'aspire plus à rien. Donc, il faut se dire que la recherche du bonheur, la recherche d'un avenir meilleur pour soi, ça fait partie de nous, ça fait partie de l'être humain en tant que personne. Et on doit le faire. Que tu restes ici, que tu parles là-bas, tu es toujours aspiré à avoir quelque chose de meilleur. C'est-à-dire, il ne va pas y arriver un jour, tu te lèves le matin pour dire c'est bon, aujourd'hui j'ai tout atteint. Il n'y aura jamais ça. C'est-à-dire, il y a un objectif que tu te fixes chaque jour. Aujourd'hui, tu veux avoir un vélo. Quand on te donne un vélo, demain, tu aspires à avoir une moto, ainsi de suite. C'est ce qui fait aussi la beauté de l'humanité. C'est ce qui fait la beauté de vivre. Donc, qu'on chasse, qu'on reste ici ou qu'on parle là-bas, les défis ne sont pas les mêmes, mais chacun d'entre nous a des défis. Et quand on est ici, on a beaucoup plus de possibilités, on a beaucoup plus de solidarité, mais on a beaucoup plus de connectivité. Et surtout, on se sent accompli parce que là, on participe à quelque chose qui nous appartient, auquel nous sommes partie prenante et tu joues pleinement ce que tu dois faire. Tu es en paix avec ta conscience. Mais alors que quand tu es ailleurs, tu te demandes toujours, mais comment c'est possible que ça se passe au pays? Comment c'est possible? Souvent, quand on discute avec ceux qui sont allés à l'étranger, ils nous disent, mais comment vous pouvez accepter? Comment vous pouvez accepter? Oui, mais écoutez, revenez pour qu'ensemble, on lutte. Mais pas que quelqu'un reste à l'intérieur et quelqu'un part à l'extérieur et puis après, il y a des questionnements. Revenez, l'avenir se fera avec les jeunes. Mais nous sommes d'abord le présent et ça se joue maintenant.
Alors, malheureusement, nous sommes rattrapés par le temps. Alors, Monsieur Pascal, un dernier message.
Bah écoutez, la jeunesse, c'est l'avenir. Et donc, l'avenir est en vous. Je pense que ça, c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer maintenant.
D'accord. Alors, merci beaucoup. Et cela met fin à ce débat sur la migration irrégulière. Un grand merci à nos invités. Il y a Monsieur Pascal, votre nom de famille, encore une fois.
Rentiens.
Chef de mission OIM Mali. Adam Diko, directrice exécutive de AGCAD Mali. Ce débat entre dans le cadre du partenariat entre Studio Tamani et l'organisation international pour les migrations. C'est une présentation de Fatmata Togola à la mise en onde de Noumdjiré. La régie doit être assurée par Salim Djouara. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de Studio Tamani.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba. Et Dewani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry. Halou Dmoni.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.